Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette émission Parole au présent. Au microphone, Claude Julien, je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Heureux de vous retrouver pour ce commentaire donc de l'Évangile qui sera proclamé dans toutes les églises catholiques du monde en cette fin de semaine. Et je pense que c'est dans le prolongement de la liturgie, donc de dimanche dernier, où il était question de prière.
Absolument, hein? La veuve et le juge, qui était donné comme exemple, la veuve, exemple de prière. Alors, on a encore un texte sur la prière aujourd'hui, c'est une parabole. Probablement parce que les deux parlent de prière que Luc les a mis à la suite. Ici, on a une parabole avec une introduction très brève qui permet à Luc de la mettre en contexte, ce qu'il fait très souvent dans son évangile.
C'est ça. Dimanche dernier, c'était une pauvre veuve là qui suppliait un juge qui voulait pas l'écouter,
En gros.
Là. Et cette fois-ci, bien, nous sommes en présence de deux hommes. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Rapace, injuste, adultère, ou encore, comme ce publicain, je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, sois réconcilié avec moi, le pécheur. » Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison plutôt que l'autre. Car qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Francine Robert, ce texte aborde une thématique importante, je pense, dans l'Évangile de Luc.
Oui, absolument. La gratuité du salut, je dirais, le Dieu de la grâce, la gratuité qui est à accueillir, pour laquelle on ne peut pas accumuler de mérite. La parabole ici met en scène cette attitude d'accueil qui est incarnée par le deuxième personnage, et qui s'oppose à une attitude qui est bloquée sur le mérite, ce qu'incarne le premier personnage de la parabole. Je rappelle que c'est une parabole, c'est inventé par Jésus, et ici elle est construite sous mode de comparaison. On a deux hommes, deux attitudes, deux prières, deux portraits très stéréotypés. Là, on est au bord de la caricature, finalement. Deux portraits faciles à juger, je dirais.
Et on a des réflexes de lecture, hein, quand on lit cette...
Ouais, comme souvent, quand on a deux figures, là.
On est du côté du bon, ouais, je vois.
Ouais. On cherche le bon à imiter, celui qu'on suppose qu'il nous est donné comme exemple. Et puis, évidemment, on disqualifie l'autre, on fait ça avec les deux larrons, on fait ça avec la plupart des récits à figure binaire, construits sur la comparaison.
Et c'est ce qu'on devrait pas faire.
Parce
qu'il y a toute une profondeur là qu'on risque de passer à côté si on classe ça si vite finalement.
Ouais, je pense que oui, c'est jamais simpliste l'évangile et puis l'expérience croyante est pas simpliste du tout. Alors François Beauvon que vous aimez citer aussi, qui est un spécialiste de Luc, propose de réfléchir à soi-même pour les deux personnages. Chacun des deux personnages reflète quelque chose de moi. Tout disciple, finalement, est concerné autant par le premier personnage de la parabole que par le second. Et on a aussi, comme dans la grande majorité des paraboles de l'Évangile de Luc, un discours sur Dieu. Les paraboles sont d'abord théologales chez Luc. Hein, nous disent quelque chose de Dieu avant de nous dire quelque chose sur nous-mêmes.
Vous avez raison de signaler ça. On regarde les deux hommes, là, puis en fait, c'est plus que ça. Qui est Dieu, finalement? C'est la préoccupation de Luc de nous brosser un portrait vraiment de la personne de Dieu.
Ouais, qui doit ensuite inspirer notre agir au lieu de faire le raccourci qui agit bien dans le texte et qui me dit comment agir moi. Non, qu'est-ce que ça me dit de Dieu et qu'est-ce que cela après m'implique pour moi comme agir? Et ça va être vraiment le cas ici. C'est une parabole qui parle de Dieu, qui parle du rapport à Dieu. On en est prévenu dès l'introduction, donc la phrase qui permet de mettre la parabole en contexte. On nous dit, Jésus adresse la parabole à ceux qui se considèrent comme des justes. On ne doit pas penser seulement aux pharisiens ici. Le pharisien est donné comme exemple dans la parabole. Mais ceux qui se considèrent comme des justes, c'est plein de gens. Ça peut aussi bien s'adresser aux disciples. Dans toute cette section-là de l'Évangile, Jésus s'adresse tantôt aux disciples, tantôt aux pharisiens, comme si parfois les deux étaient ensemble. On a deux précisions sur ces gens qui sont visés. La première, ils sont persuadés sincèrement d'être des justes. On doit accueillir ça pour ce que c'est. C'est dit comme ça, et donc ça veut dire qu'ils ont de bonnes raisons de penser qu'ils sont des justes. Faut faire attention à pas avoir en arrière de la tête les expressions de Matthieu, pharisien hypocrite, là. Il n'est pas question d'hypocrisie ici. Il est question de personnes qui se considèrent sincèrement comme des justes, c'est-à-dire, pour rappeler le sens du mot « juste », dans la tradition biblique, ce sont des gens qui sont fidèles à la Torah, à la loi de Moïse, autant que possible. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est pas toujours, toujours, toujours parfait.
Des gens qui s'appliquent, on peut dire, à s'ajuster à la Torah.
Oui, et qui est la Torah qui est reçue comme le projet de Dieu. Hein? Donc, c'est faire la volonté de Dieu que de suivre la Torah. Et c'est exigeant, ça implique autant le plan social, personnel, économique que religieux. Hein? La Torah, ça couvre tous les aspects de la vie. Le problème vient de la deuxième précision qui nous est donnée à propos de ces gens qui se considèrent comme des justes et qui méprisent les autres. Là, ça dérape, on peut dire. C'est un verbe fort hein, qui est là, le verbe mépriser. Il est bien traduit d'ailleurs, mais on pourrait le traduire par les tenir pour rien. Il est fait avec le mot grec qui veut dire rien. Alors, c'est sûr qu'en ajoutant ceci, ça induit un regard négatif là chez l'auditeur et chez le lecteur. Ces gens-là, comme dit Beauvan, ils ont l'assurance d'une bonne conscience, ok, mais ça se double d'une sorte de conscience de classe. Hein. Ils se considèrent comme des croyants de première classe, avec un certain mépris pour des croyants de troisième classe ou des pas bons du tout. Il y a une sorte de prétention à la supériorité ici sur les autres. Donc, ça, c'est reproché. Et ça rappelle le chapitre 14 hein, qu'on a traité, je crois bien, cet été, quand Jésus dit « Faites attention à pas choisir les premières places. » Puis dans le contexte, ça voulait vraiment dire à pas vous penser supérieur aux autres, donc tasse-toi que je m'y mette. Il y a du mépris là-dedans. Et ça se terminait, ce récit, par la même phrase que notre récit d'aujourd'hui, « Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. » Parce qu'au fond, quand on s'élève, on grimpe sur les épaules des autres. Hein? C'est ça qu'on fait pour s'élever. On se dit, l'autre est pas bon, alors je suis pas mal bon moi-même. Alors, c'est le mépris qui est un problème ici, dans l'introduction.
Et les deux montent au temple.
Oui, on est donc dans la parabole, les deux montent au temple, deux hommes. L'expression est classique, monter au temple, se rapprocher de Dieu. Le temple, on s'en rappelle, est le lieu qui manifeste ou qui exprime le plus la sainteté de Dieu pour Israël.
C'est vraiment la présence de Dieu au milieu du peuple, quoi.
Oui,
qui est,
qu'elle ne soit pas chosifiée non plus, mais c'est sûr que ça incarne, oui, la sainteté de Dieu. Le plus fort que ça peut être exprimé, c'est le temple. C'est sûr aussi que ça nous rend nous-mêmes, dans le temple, plus conscients encore de notre sainteté qui permet de s'approcher de Dieu, ce qui est le cas du pharisien, ou de notre manque de sainteté, ce qui est le cas du publicain qui reste à l'arrière. Ce sont des états dont on a une conscience plus aiguë lorsqu'on est dans le temple.
Et ils y vont pour prier.
Oui.
Hein? On se rappelle la veuve de dimanche passé. Hein?
Oui, le même verbe, exactement. Mm-hmm. Et c'est un thème important dans l'Évangile de Luc, la prière. La prière dit l'attitude de toute la personne devant Dieu. Hein. On disait la semaine dernière comment toute la personne s'investit dans la prière. C'est donc plus que savoir quelle est la prière récitée. C'est la façon dont on se positionne dans la relation à Dieu. Deux hommes, le même déplacement, le même but.
Oui, oui, ça unit étroitement verset, hein, les deux personnages.
C'est tout à fait étonnant.
Sont unis dans ça, quoi.
Oui. Mm. La manière de raconter unit étroitement ces deux hommes dont on nous dit après que ce sont l'un un pharisien, l'autre un publicain. Et le parallèle va continuer. Pour les deux, on va avoir une information sur leur position physique, sur leur prière aussi. Ils vont désigner Dieu de la même manière, au Dieu. Et pourtant, ils sont aux antipodes, un pharisien et un publicain. Quand je dis qu'ils sont aux antipodes, j'adopte le point de vue du pharisien, bien sûr, qui considère n'avoir rien en commun avec le publicain. Alors, Luc fait souvent ça, réunir dans une même situation des personnages dont l'un des deux considère qu'il n'a rien en commun avec l'autre. Hein? Si on se rappellera...
On se souvient de Simon, oui, Simon le pharisien, oui, versus la pécheresse.
Ben,
quoi,
c'est ça. Lui, uh-huh, est sûr qu'il n'a rien en commun. Mm-hmm. Il finit par se faire dire que lui aussi est un débiteur qui a besoin d'être gracié comme elle. Même chose pour le fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui prétend n'avoir rien en commun avec ce fils prodigue. Et le père lui dit, c'est ton frère. Hein? Alors, Luc, dans sa manière de raconter, favorise l'inclusion, non? Favorise le fait que le regard sur l'autre doit me rappeler que j'ai quelque chose en commun avec lui, plutôt que l'exclusion qui va bien avec le mépris aussi et la séparation, telle qu'elle est incarnée dans le personnage du pharisien.
Bon, il y en a un qui se tient debout.
Oui, hein? C'est le pharisien.
En fait, évidemment, c'est le pharisien.
Oui, bien qu'on ne saura pas si le publicain n'est debout ou pas, mais la conjugaison ici employée pour le pharisien, c'est vraiment « se tient debout ».
Le publicain se tenait à distance, ouais, et on ne sait pas dans quelle position il est.
D'autant plus que la prière se faisait habituellement debout.
Ouais,
Donc, Luc emploie un verbe ici qui, c'est-à-dire, c'est le même verbe que pour le publicain, mais il est conjugué différemment, de sorte que c'est mieux traduit par se tenir debout. Alors, il se dit en lui-même, peut-être, donc il ne prie pas à haute voix, cette prière que nous avons au verset 11b, 12, alors certains exégètes se disent, oui, c'est un reflet assez juste de la piété pharisienne. D'autres exégètes vont dire, ouais, mais Luc fait une caricature de la piété pharisienne ici, en énumérant des « je vois ce que je fais, ce que je ne suis pas ».
C'est ça, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, etc.
Mais il reste quand même que, je pense, ce qui est frappant dans cette prière, c'est que cette observance minutieuse que le pharisien décrit, bon, avec un petit peu de complaisance, je dirais, il la reconnaît quand même comme un don de Dieu. Hein? Comme vous avez dit, « je te rends grâce, Dieu ». D'être comme ça et d'agir comme ça. Il s'en attribue pas,
tout le mérite,
non,
effectivement.
C'est ça. Mm-hmm. Et si on n'avait pas l'introduction ou si on n'avait pas l'étiquette pharisien dans notre tête, on pourrait le considérer comme le juste évoqué dans les psaumes. Hein. Par exemple, le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi d'Yahvé ». Ça reflète tout à fait la spiritualité de cet homme qui est sincèrement heureux de ne pas suivre le chemin des pécheurs. Mais en même temps, bon, ça peut être un petit peu caricatural aussi. Le problème, c'est surtout le « moi, je ne suis pas comme ».
Mm-hmm. Hein? Je ne suis pas comme ce publicain.
Mm. C'est ça. Le problème, c'est pas ce qu'il fait. C'est le fait qu'il grimpe sur les épaules de l'autre, hein. Au fond, il illustre dans la parabole ce qu'on avait dans l'introduction. Ceux qui méprisent tous les autres. Alors, ils méprisent de façon assez générale, je suis pas comme les autres. Et ils méprisent de façon particulière, je suis pas comme lui à côté. Lui étant le publicain. Ça dit une certaine fragilité dans la conviction d'être un juste quand on a besoin de se comparer à celui dont on est sûr qu'il n'est pas un juste. Pour être sûr, nous-mêmes, d'être considérés comme un juste, il y a quelque chose de fragile là-dedans et d'un peu faussé. Et je dirais, mais là, c'est peut-être plus une opinion personnelle, que ce mépris est une sorte de manque de générosité spirituelle face à l'autre. Hein. Il y a une sorte de sécheresse du cœur qui est le contraire de la miséricorde, en fait. Dans l'attitude de celui qui dit « je te rends grâce de pas m'avoir fait comme l'autre, qui est un pas bon », Il y a une méconnaissance profonde de Dieu, du Dieu en tout cas de la théologie de l'Évangile de Luc. Ce Dieu, lui, il est soucieux du pécheur, il est soucieux de chercher la brebis perdue, de la trouver, de la ramener. Et cet homme qui dit merci à Dieu de pas m'avoir fait comme lui.
Il regarde Dieu comme un juge, finalement.
Oui,
hein?
Oui.
Toi, Dieu, tu juges bien les choses, là. Bon, ben, moi, là, je suis du bon côté. Et lui, tu l'as classé dans le...
Voilà, absolument.
Qu'il l'a classé comme étant non digne, quoi.
Ouais, hein? Comme étant injuste.
Ouais.
Alors, il voit Dieu comme, portant le même jugement que lui.
Lui-même.
Oui, et ce qui, d'ailleurs, quand on s'enferme dans cette image-là de Dieu, nous conduit effectivement à grimper sur les épaules des autres, parce qu'on a peur aussi, nous, du Dieu juge. Et bon, ben, pour être jugé correct, on a toute tendance à se comparer aux autres en se disant, en tout cas, ouais, il peut me juger sévèrement parce que je suis pas parfaite, mais en tout cas... Il me jugera jamais aussi sévèrement que l'autre à côté qui est vraiment à côté de la plaque.
C'est ça. Vous
voyez?
Ouais.
Donc, on peut se reconnaître dans la prière de ce pharisien qui, je dirais, ne s'en retournera peut-être pas justifié, selon la finale. C'est-à-dire qu'il n'a pas le regard d'un juste sur Dieu, sur lui-même et sur l'autre.
Bien, parlons maintenant du publicain, hein, un métier qui est vraiment pas aimé chez les Juifs, hein. Les publicains étaient des percepteurs au service de l'occupant, hein, au service d'un prince qui n'était pas respecté. Bon, et aussi les textes grecs et romains sont antipathiques aux publicains, sont jugés âpres, au gain, rapaces, durs, inflexibles.
Mm-hmm.
C'est très présent ça dans les évangiles.
Ce sont des personnages très présents et ce sont des disqualifiés sociaux au niveau du monde juif, ça c'est sûr. Mais on oublie aussi souvent que ce sont des pécheurs aussi au sens moderne du terme. C'est-à-dire, si on se fie aux textes grecs et romains, donc, rapaces durs et inflexibles, qui pouvaient, en ramassant, en collectant les impôts ou les taxes...
Ils se payaient, quoi.
En empocher un peu plus.
Oui, oui.
On se donne bonne conscience en disant, Jésus les fréquente parce que c'est des disqualifiés sociaux. Mais il y a aussi des raisons pour lesquelles ils sont des disqualifiés sociaux, je dirais. C'est pas les plus honnêtes de la population.
Voilà.
C'est pas tout à fait les bonnes gens. Sauf que dans les évangiles, que ce soit Luc ou les autres, Jésus, c'est vrai, il leur fait une place spéciale, il les fréquente beaucoup. Pas pour les encenser ou les féliciter,
pas
mais
du tout.
Pour les appeler à la conversion.
Exactement, exactement. Ouais.
Et pour leur manifester que la grâce de Dieu, elle est là, elle les précède et elle précède même leur conversion. Et qu'ils sont accueillis par Dieu tels qu'ils sont. Alors, c'est clair que la prière du publicain ici incarne cette conviction. C'est comme s'il avait déjà entendu Jésus proclamer ce Dieu-là. Donc, il se tient à distance de l'endroit le plus sacré, le publicain. Il est conscient de sa non-sainteté, je dirais. Il veut même pas lever les yeux au ciel. Bon, il se frappe la poitrine, signe de deuil ou de repentance. Ici, c'est plutôt de repentance. Alors, on voit bien que la parabole construit un contraste marqué entre les deux attitudes physiques. On ne sait pas si le publicain est debout parce que c'est pas la même conjugaison de verbes, mais on sait qu'il se frappe la poitrine et qu'il reste en arrière. On a la même invocation au début, « Ô Dieu ». Mais le ton de la prière va être très différent. On entendrait un peu la parole du fils prodigue qui revient vers son père, là, hein. Je viens de voir Dieu, mais je sais que je suis pas digne, j'ai rien à faire valoir en ma faveur. On pourrait presque continuer comme le fils prodigue, je suis plus digne d'être appelé ton fils, hein. Mais je compte sur ta miséricorde. Le publicain compte sur la miséricorde de Dieu. Hein.
Bon, et il lui demande de lui être propice.
Oui,
commentez-nous ça un petit
peu. Le lectionnaire traduit « prend pitié », hein, mais c'est pas un appel à la compassion face à son malheur. C'est pas l'expression « prend pitié » qui est là, c'est un autre verbe qui peut se traduire par « sois-moi propice » ou « sois favorable envers moi » ou « sois clément envers moi ».
Ou « sois apaisé envers moi ».
Ou
«
sois apaisé envers moi ». Tu aurais des raisons d'être en colère parce que je suis un pécheur.
Mm-hmm.
Et c'est un terme technique qu'on retrouve dans la religion grecque, par exemple, où les activités rituelles, il y en a qui existent pour apaiser la divinité, justement. Alors, au fond, dans la Bible, c'est pas une activité rituelle qui apaise la divinité fâchée ou en colère à cause des fautes. Ici, d'ailleurs, le publicain le sait bien, il conjugue au passif dans sa prière. C'est Dieu qui s'apaise. C'est pas moi qui fais des choses pour apaiser Dieu.
OK. Ouais. Mm-hmm.
Alors, il dit, sois apaisé, hein, de ta propre initiative, Dieu, sois apaisé devant moi, ou ne retiens pas ma faute contre moi, pour prendre une expression plus connue. Donc, le publicain, c'est clair, mise sur la gratuité, sur l'amour de Dieu. On a ça aussi dans les psaumes. Hein?
Ah oui, le psaume 25, oui. Là, hein, à cause de ton nom, Yahvé, pardonne mes torts, car ils sont grands.
Ouais.
Le 65, nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi, tu les effaces. C'est un appel à ce que Dieu prenne lui-même l'initiative de s'apaiser lui-même,
oui.
Si tout
à fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Mm-hmm. Alors, ça manifeste finalement un trait de Dieu ici. C'est une parabole qui nous parle de Dieu et de notre façon, ou de nos façons, de le voir. La première lecture le dit, le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. On pourrait dire que la parabole met en scène cela. De sorte que le publicain va retourner justifié, c'est-à-dire réconcilié avec Dieu. On ne sait pas si ça va changer sa vie, remarque. La parabole ne s'intéresse pas à la suite. Est-ce qu'il va être converti? Est-ce qu'il va mieux agir? On n'en sait rien. L'histoire de Zachée, la semaine prochaine, va nous permettre d'aller plus loin dans les fruits de la conversion. Ce que l'on sait, d'après la finale que Jésus donne, c'est ce publicain retourne chez lui justifié, et non pas l'autre. On pourrait réfléchir longuement, on n'a plus beaucoup de temps, sur ce que signifie être justifié. Je dirais, pour faire bref, que il est rétabli, lui-même il en a conscience d'ailleurs à cause de sa prière, il est établi dans la relation avec Dieu, il reste en relation avec Dieu, et conscient de la gratuité de Dieu qui le maintient dans cette relation. L'autre est déjà justifié par ses mérites à ses propres yeux, mais d'une certaine manière, il ne retourne pas chez lui avec le regard ajusté à la révélation qui est faite de Dieu dans ce texte. Et dans ce sens-là, il n'est pas réajusté lui-même à ce que Dieu lui propose, c'est-à-dire de porter un regard différent sur lui-même, sur Dieu, et en conséquence, de porter un regard différent sur son voisin, le publicain.
Voilà, c'est ça.
Une bonne manière de s'approprier cette parabole-là, ou l'interpellation qu'elle nous lance, une bonne manière d'y réfléchir, c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut imaginer que pourrait être la prière du pharisien si on pense cette prière comme étant mieux ajustée à ce qui est proposé comme regard sur Dieu ou comme regard de Dieu sur lui-même, sur le pharisien, et regard de Dieu sur le publicain. Si le pharisien tenait compte de ça, ça serait quoi sa prière? Est-ce qu'il pourrait prier pour le publicain?
Mm-hmm. Eh bien, merci. Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.